7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment faire face à l'adversité? Les embuscades de la vie sont partout de nos jours. Voiture en panne, un patron odieux, accusations injustes, trahison amoureuse, torrent de pluie pour un événement important. Il y a des périodes où vous vous demandez si quelqu'un n'a pas attiré le mauvais œil sur vous, tellement les ennuis s'accumulent. Bref, vous avez la poisse, il n'y a pas d'autre mot. Pas la poisse des grands drames de la vie avec la mort qui rôde, non, la petite poisse de tous les jours. Alors comment rester zen quand on vous critique? Trouver les bons mots? Faire face aux personnes toxiques? Garder sa présence d'esprit en cas de pépin? Et plus largement, changer de regard pour trouver les bonnes réponses? Eh bien, les bonnes réponses, ce sera avec nos invités. Bonjour Mathilde Lévesque.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de rhétorique. Vous publiez La tête haute, guide d'autodéfense intellectuelle. Vous avouez d'ailleurs dans votre livre que la première fois que vous avez entendu parler de ce truc, vous n'avez pas du tout compris ce que c'était l'autodéfense intellectuelle. Ça me rassure parce que moi non plus.
Oui, non, alors effectivement, c'est mon éditeur qui m'a proposé de faire un livre là-dessus. Et j'avoue que je suis restée un peu comme deux ronds de flanc. Je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est l'autodéfense intellectuelle? Et en fait, le mot, enfin, l'expression existait déjà, mais c'était vraiment plus pour se protéger des discours de, disons, complotistes ou les fake news. Et comme l'expression était un peu souple, on a décidé de l'étirer un peu et de désigner sous cette appellation, donc autodéfense intellectuelle, une manière de se protéger.
De tous les cons, en gros. Hein, c'est un peu ça.
Il s'agit toujours de se protéger des cons, mais en tout cas, intellectuellement, c'est-à-dire avec les mots. Voilà, ça fait un peu pompeux intellectuel, mais ça veut simplement dire arriver à régler les choses sans recourir à une droite dans le visage.
Mais de l'autodéfense intellectuelle, vous en faisiez sans le savoir dans votre classe avec vos élèves, on va en discuter. Vous êtes comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose et vous faites de la rhétorique avec vos élèves, on va en discuter. Fabrice Midal également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, enseignant en méditation et vous publiez Traité de morale pour triompher des emmerdes. Rien que le titre, je trouve que ça fait du bien à tout le monde.
Absolument, hein, parce que notre tendance première, c'est dès qu'on a un emmerde, de trouver que c'est pas juste et d'être dans la plainte. Ou alors d'être dans la violence pour essayer de s'en débarrasser. Et c'est deux attitudes qui marchent pas. Et au fond, tout l'enjeu, c'est de savoir qu'on est heureux quand on triomphe des emmerdes, quand on fait face aux emmerdes. Et c'est ça le renversement que j'ai voulu essayer de développer. J'ai un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, je l'ai appelé et il m'a annoncé, ça m'a vraiment fait un choc, que son fils est malade, il a une grave maladie. Et il est à l'hôpital. Et pour soutenir son fils, il a demandé à pas mal de personnalités d'envoyer un petit message vidéo. Et le message qui a le plus touché cet enfant, c'est une personnalité qui a envoyé le message et qui lui disait, ce qu'on dit tous les autres, on te souhaite bon rétablissement et tout ça. Puis il lui dit, tu sais, tu vas voir que dans la vie, on est heureux quand on a réussi à faire face aux difficultés. Et ça, c'est vraiment important. Et l'enfant, ça l'a beaucoup aidé. Et au fond, c'est très important parce qu'on a tout le temps l'impression qu'on sera heureux si on est dans notre bulle, qu'on est zen, qu'on est cool, qu'on n'a pas de problème. Mais ça n'existe pas, ce monde-là. Il est temps d'arrêter de rêver à un monde idéal et de retrousser ses manches et de voir comment on fait avec les emmerdes. Et par là, on se rend compte qu'on est vraiment vivant et qu'au fond, c'est souvent génial de pouvoir affronter le réel.
On va en arriver à souhaiter avoir des problèmes, là, en vous écoutant.
On ne peut pas souhaiter avoir des problèmes, mais ils viendront de toute manière. Donc on a deux solutions. Soit on se plaint et on pleurniche, soit on essaye de voir comment on fait avec. Ouais, et quand on voit comment on fait avec, on découvre. Et c'est vraiment une des choses les plus stupéfiantes, qu'on a plus de ressources qu'on ne le croyait.
Vous êtes habillé tout en jaune, c'est normal, c'est une couleur spéciale pour lutter contre l'adversité, Fabrice
non.
Midal. Lunettes jaunes, pull jaune, veste jaune,
gilet jaune.
Je me sens bien avec cette couleur et je trouve que c'est important de trouver des manières dans lesquelles on se sent bien. C'est ce que j'explique un peu dans le livre, il ne faut pas avoir peur des futilités, on a l'impression que il faut que devant les emmerdes, les ennuis de la vie, il faut des grands principes, des trucs très abstraits. Et je pense qu'au contraire, on a tort de mépriser des futilités. Moi, j'ai un ami qui est coiffeur et il me raconte qu'il est une sorte de thérapeute parce que les gens viennent le voir. Et souvent, simplement en coiffant les gens, il leur donne confiance. Donc ça, chacun trouver sa manière d'avoir confiance. Ça peut être d'aller chez le coiffeur, ça peut être de mettre du rouge à lèvres. Et ben moi, c'est de m'habiller en jaune parce que ça me fait du bien.
Bon, alors, les voisins, bien évidemment, je vais vous donner le numéro de téléphone parce qu'on veut que vous nous racontiez vos soucis du quotidien et comment vous faites pour triompher de l'adversité. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp si, bien sûr, vous avez du bol, c'est-à-dire de la connexion Internet.
7 milliards de voisins.
On est tout proche.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Ali, je vous lis des petits messages absolument formidables de ce qui arrive à nos auditeurs. Ninel, qui est à Yaoundé, au Cameroun. Je cherche un travail stable, mais je conseille aussi les autres. Je les encourage, nous dit Ninel. Je rédige leur CV. Mais ce sont eux qui trouvent, parfois sans même chercher du boulot, parfois sans même réellement y tenir. Et plus je cherche, et plus les autres trouvent. C'est ma plus grosse source de frustration. Parfois, ça me plombe vraiment le moral. Il y a Claude qui lui répond sur Facebook et qui lui dit oui, on a l'impression d'être éteint comme un portable.
Mais des fois, quand on veut trop quelque chose, ça crée un vrai obstacle. C'est vraiment, c'est comme des gens qui sont seuls et qui veulent rencontrer quelqu'un. Ils le veulent tellement qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et donc, c'est pas toujours facile de trouver. Là, je pense que sa difficulté, c'est comment trouver l'équilibre entre j'en fais trop et je ne fais plus rien. Et ça, je crois que c'est vraiment la clé. Ne pas vouloir trop faire. Ne pas vouloir abandonner.
Mathilde Lévesque.
Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, lorsqu'on cherche quelque chose, que ce soit pour soi, pour les autres, quelqu'un, ça se voit. On porte sur nous ce qu'on est, ce qu'on cherche, ce qu'on fuit, ce qui constitue nos faiblesses. Et c'est pour ça que c'est important de rester aussi impassible que possible, justement, de fuir l'affectif, de fuir l'émotionnel, et de rester, de ne pas laisser de porte d'entrée à soi qui serait involontaire. C'est-à-dire ce qu'on donne de nous, ce qu'on donne à voir doit être choisi. C'est nous qui le construisons.
Oui, c'est quand même très difficile à faire. Hein. On attend quand même des exemples et des méthodes pour y arriver.
Ce qu'on donne à voir, moi je pense que ce que dit Mathilde Lévesque est très important, parce qu'on a l'impression... Le discours habituel, c'est soyez authentique, soyez vous-même. Moi, je me souviens, la première fois que je suis passé à la radio, on m'a dit sois toi-même, j'ai bégayé, c'était la catastrophe. Et après, on m'a expliqué non, il y a un certain nombre de choses à savoir. Et donc, je pense que ce que dit Mathilde Lévesque, c'est très vrai. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut montrer de soi, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut montrer de soi. Je raconte dans le livre Traité de morale pour triompher des emmerdes, comment il y avait un roi au XVIIe siècle qui voulait savoir quelle était la langue originelle des gens. Donc il a pris des bébés, il a interdit qu'on leur parle pour savoir s'ils allaient parler la langue, est-ce qu'ils allaient parler hébreu, latin, grec ou allemand. Et il a voulu savoir, mais quelle était la langue la plus vraie des gens, surtout qui n'apprennent aucune méthode, qui soit naturelle. Ils sont tous morts, les bébés, parce qu'on leur a pas parlé. Et donc ça, c'est vraiment important.
Bon, bah ici, ça risque pas. On est là pour tchatcher. On a déjà bien démarré l'émission. Est-ce que j'ai le droit quand même de continuer à vous lire quelques messages d'auditeurs? Parce que vous savez que c'est aussi les auditeurs qui vont vous questionner. Bourgeois, il a 26 ans, il est à N'Djamena, au Tchad. En 2015, j'ai passé un examen à l'université de N'Djamena. La veille, j'ai préparé mon cartable avec mon stylo, mes papiers d'identité. L'examen était à 7h. J'habite un quartier loin de la fac. En arrivant, je me suis rendu compte que j'avais pas pris mes papiers d'identité, alors que j'étais sûre de les avoir mis dans mon cartable. Je n'ai pas eu accès à la salle d'examen. Il a fallu que je retourne à la maison chercher mes papiers. Je n'ai eu que 2 heures pour un examen de 3 heures. Alors, il ne nous dit pas s'il a eu son examen. Mais ça, c'est quoi? C'est un coup de l'émotion, du stress.
Oui, enfin, je pense que c'est le stress. Moi, j'ai eu exactement le même genre de problème, donc je compatis. J'avais toujours peur. J'ai toujours peur de perdre les trucs dans mon sac, et je vérifie tout le temps que je les ai. C'est un peu un toc, et c'est comme ça que je les perds. À force de vérifier, je finis par les faire tomber à un moment ou à un autre sans m'en rendre compte. Spécial dédicace à la carte bleue de mon père une fois que j'ai perdu comme ça. Et c'est voilà les choses. En fait, c'est pas encore une fois, c'est pas le mauvais œil, c'est pas la malchance. C'est à un moment, on a fait les choses. En revérifiant trop, en paniquant trop autour de ça, on risque de se mettre en difficulté.
Melbis a posté ce message de Lomé au Togo.
Un exemple de pépin. Il y a 2 semaines, j'étais au boulot et en voulant prendre un paquet de papier, le postelier est tombé et l'écran est cassé. Quelques minutes après, une collègue entre et demande à ce que je lui prête mon portable téléphone. Elle a pris et quelques 30 minutes, elle ramène le portable et je remarque que plus d'unités d'appel dans le portable. Au moment où moi je voulais appeler, plus d'unités. Elle a utilisé toutes les unités, elle a déposé le portable, m'a remercié, elle est partie. Voilà de fait, en moins d'une heure, en plein début de journée, j'ai continué la journée comme si de rien n'était.
Ouais, bah vaut mieux, hein. C'est ce qui s'appelle se faire avoir.
Moi, je dirais pas qu'il faut que c'est mieux. Je pense que la vie, c'est ça. Il y a toujours des emmerdes. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'au fond, on va pas parler de pourquoi on a des emmerdes. On s'en fout pourquoi on a des emmerdes. On n'en finira jamais. Il y a plein de gens qui peuvent vous expliquer les choses. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'il fait avec cette collègue qui lui a pris son portable ? Qu'est-ce qu'il fait avec l'ordinateur qui est cassé ? C'est ça la question la plus intéressante.
On rebondit, on se réinvente. C'est ça ?
On rebondit, on se réinvente. Et donc, au lieu d'essayer d'être authentique, au lieu d'essayer d'être soi-même, on essaye de mieux voir le réel pour trouver des réponses dans le réel. Je crois que c'est ça qui est absolument central.
La question, c'est que dire à cette collègue qui a pris toutes les unités de votre téléphone ?
Alors, la spécialiste de la rhétorique, vous lui diriez quoi ?
Alors, bah, ça dépend.
Franchement, tu m'as pourri ma journée.
Ben non, moi là je suis d'accord aussi avec Fabrice. Non, c'est pas la journée n'est pas pourrie, la journée doit être sauvée. Au contraire, donc il faut qu'elle trouve une solution.
Un message d'Emmanuel, le bien nommé, à Dakar.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux 7 milliards de voisins. Moi, il m'est arrivé de vivre une situation imprévisible. Le téléphone avec lequel je travaille, parce que je suis agent commercial, un jour il est tombé en panne, subitement comme ça, l'écran n'affichait rien du tout. J'entendais juste le téléphone sonner et je pouvais ni décrocher ni voir les appels. Et du coup, c'est devenu une situation stressante, pas aisée du tout. Mais j'ai gardé quand même mon calme, j'ai bien inspiré, bien expiré. Pas question d'aller réparer le téléphone, perdre encore du temps. Il faut s'offrir un nouveau téléphone, c'est ce que j'avais fait. Mais j'avoue que ça avait complètement chamboulé mon programme ce jour-là, parce que c'était pas du tout planifié. Mais bon, il y a des jours comme ça, ça arrive, il faut faire avec. Merci encore pour votre émission.
C'est ah ça, oui, la vie, on est chamboulé. La vie est pleine d'imprévus, c'est fou. Hein.
Et c'est ça qui est génial dans la vie, c'est qu'on est chamboulé. Et après la question, c'est ça la vraie question, c'est comment on se débrouille avec le fait qu'on est chamboulé. Et on peut dire, ah merde, je suis chamboulé, je veux pas, je veux garder le contrôle, et ça ne marche pas. Au fond, l'idée qu'on a de vouloir garder le contrôle en toute situation, c'est ça qui nous rend fous. C'est vraiment, et ça nous induit l'impuissance.
Accessoirement, et moi, s'appeler Emmanuel en ce moment, c'est pas un super prénom, certes présidentiel, mais... Emmanuel Macron, est-ce qu'il est sur la voie du triomphe avec les gilets jaunes ?
Lui ? Oui.
Bah, notre auditeur s'appelait Emmanuel, vous avez oublié.
Oui, mais non, j'ai pas oublié, mais Emmanuel est un prénom qui est porteur de bonnes nouvelles, hein, étymologiquement. Donc revenons à ça. Là, c'est pareil, il y a le choix. Revenons à ça plutôt qu'à Macron et à l'étymologie hébraïque d'Emmanuel, qui est porteuse, qui est de pleine d'espoir. Voilà.
Bon, sur les gilets jaunes, non, vous voulez pas.
Bah, c'est pas notre sujet, je pense.
Bon, d'accord. Mathilde Lévesque.
Parce que nous, on est là pour parler des problèmes du quotidien. Des gens. Et après, si vous voulez qu'on fasse une émission, moi je veux bien faire une émission, mais à ce moment-là, il faut qu'on ait le temps de développer, parce qu'il n'y a rien de pire que de donner une phrase comme ça sur une situation. Je pense que c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est de ne pas avoir le temps de développer vraiment une pensée. Et justement, moi ce que je trouve intéressant.
Non, mais
par
rebondir dans une situation politique complexe, ça fait aussi partie moi aussi, finalement, quand même, de votre réflexion.
Sur les gilets jaunes, j'ai quand même une petite anecdote qui. Voilà, pour rester dans le thème qui est le nôtre. Mes élèves, au tout début du mouvement, alors déjà, c'est un mouvement auquel ils se sont sentis associés, donc c'est important rien que pour ça, parce que, voilà, ils m'ont souvent demandé ce que j'en pensais. Bon, je ne me suis pas exprimée sur la question, évidemment. Mais très tôt, en couplant ça avec le cours sur l'argumentation, ils m'ont dit « Mais madame, pourquoi est-ce que les gilets jaunes n'y font pas de lettres ouvertes ?» pour exprimer leurs revendications. Et à ce moment-là, il y a un des élèves qui avait répondu, et ça, j'avais trouvé ça triste, qui avait dit parce qu'ils ne savent pas faire. Et très rapidement, en fait, le mouvement a pris de l'ampleur, s'est organisé, et ça a été justement, dans certaines formes, hein, des manifestations des Gilets jaunes, ça a été un pied de nez à ce qu'on pensait d'eux en tant que représentants d'un mouvement populaire, et dont on pour des gens qu'on pensait incapables de s'organiser, comme les manifestations auxquelles on est plus habitués. Donc moi, je félicite les Gilets jaunes pour cela, c'est-à-dire pour leur constitution en mouvement et pour tous les pieds de nez qu'ils ont pu faire en tant que mouvement constitué à ceux qui ne croyaient pas en eux.
Ouais, voilà. Même pas pour les destructions, par contre, parce que c'est pas ce que vous prenez avec vos cours de rhétorique. Alors on en va en discuter, de la rhétorique. Allez, je redonne le numéro de téléphone pour les auditeurs. Comment triompher des emmerdes, puisque c'est le titre de votre livre, Fabrice Midal. Et puis surtout, comment garder la tête haute, guide d'autodéfense intellectuelle avec vous, Mathilde Lévesque, 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous pour nous parler de vos situations concrètes où vous vous êtes sentie victime ou en tout cas incapable de rebondir dans une situation d'adversité. 33 1 84 22 71 71. Surtout, appelez-nous tout de suite.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum
sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. 1000 regrets aux absents. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Il n'y a pas de doute, c'est maintenant, on est en direct sur RFI, 7 milliards de voisins, comment triompher de l'adversité. Mathilde Lévesque, on l'a dit, vous êtes professeure de français. Vu de loin, est-ce que ça a à voir avec l'adversité, avec les emmerdes? Eh bien, vous enseignez à Aulnay-sous-Bois, dans le département le plus pauvre de France. Donc, a priori, vos élèves et vous-même, vous avez une petite idée de ce que peuvent être les tracas du quotidien?
Oui, enfin, moi j'y enseigne. Je n'y vis pas. Oui, mes élèves sont confrontés effectivement à des situations extrêmement complexes dans un département qui a été globalement abandonné par les services publics et dans lequel il ne reste plus que l'école ou quasiment comme service public. Donc on assume beaucoup de tâches pour s'occuper des tracas de ces élèves-là qui en fait vont au-delà dans certains cas de ce qu'on appelle les tracas ou les emmerdes, hein, des situations profondément complexes, douloureuses. Voilà. Donc pas d'adversité en l'occurrence, mais aider des accompagner des jeunes, des mineurs dans un début de vie qui n'est pas toujours facile.
Ouais. Voilà. Comment du coup vous en êtes arrivé à enseigner la rhétorique, l'argumentation à vos élèves alors que c'est plutôt, c'est réservé aux avocats?
Ah non. non, alors déjà, bon, l'argumentation fait partie du programme de français. C'est vrai que c'est plutôt sur des textes un peu à l'ancienne, comme disent les élèves, donc plutôt 16e, 18e. Mais on a des aménagements possibles, des créneaux horaires qu'on peut utiliser pour pouvoir travailler, enfin pour que les élèves puissent comprendre que l'argumentation qui était valable chez Rabelais reste globalement opérationnelle en 2019. Enfin, ça n'a pas changé depuis Quintilien et Aristote, c'est dire, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Donc ça peut faire un peu poussiéreux, un peu intello, mais en fait, on utilise des choses recensées par Quintilien en permanence.
Vos élèves, ils ont naturellement le sens de la répartie pour certains d'entre eux?
Oui. Oui, alors ça, je pense, j'ai réfléchi là-dessus parce que je trouve que c'est un signe d'intelligence d'avoir de la répartie. Et je pense que c'est comme ça que je l'analyse en tout cas, c'est parce que ce sont des gens qui se sentent. Qui sont par définition suspects ou qui sont les jeunes du 93 quoi, donc ils sont sur la défensive et ils ont trouvé pour certains une option qui est de ne pas être dans la défense agressive mais de savoir retourner la situation, c'est-à-dire la prof fait, donc la prof qui a le pouvoir symbolique mais quand même fait une remarque, qu'est-ce que je fais? Je courbe les chines, je l'agresse ou je rebondis sur ce qu'elle a dit pour pouvoir, par exemple, me faire rire, au lieu de...
Quand vous dites à un élève qui ne fiche pas grand-chose en classe, mais vous avez un baobab dans la main et qu'il vous répond « Avouez, madame, j'ai la main verte », ça y est, il a marqué un point, vous avez perdu. Ou vous trouvez encore une parade derrière?
Alors, dans l'idéal, il faudrait, cette fois-là, je n'en avais pas trouvé, et ça, je pense que c'est important, il n'y a pas de gagnant-perdant. Dans l'idéal, il faut vraiment arriver à se dire que on transforme l'adversaire en partenaire et qu'on s'amuse. Je pense que c'est quand même important de là aussi, les situations, les conflits existent, qu'est-ce qu'on en fait? On s'en rend malade, on va au front, ou on essaye d'en sortir par le haut et d'en faire quelque chose un petit peu de dynamique et de voire d'excitant. Voilà, dans le ping-pong de l'échange.
Quand il y a du conflit, du désaccord au travail, c'est quoi les ou pas que au travail d'ailleurs, hein, dans votre salle de classe, c'est quoi les erreurs à ne pas commettre?
Alors, je pense que vraiment la grande erreur, la première à éviter, c'est de mettre de l'affectif là-dedans, de l'émotionnel. Il faut vraiment verrouiller l'émotion et rester sur ce qui est dit, identifier la partie dans le discours de l'autre, identifier la partie sur laquelle on peut répondre et ne pas laisser de brèche émotionnelle dans laquelle l'autre peut s'engouffrer. Parce que là, on sort du conflit initial. Et puis, il faut pas se précipiter. Et il faut pas non plus revenir le lendemain en disant « Eh, tu sais, par rapport au truc d'hier, là, je voulais te dire non, non, non. » C'est tout de suite.
Ou jamais.
Ou jamais.
Bon, bah, voilà, un premier conseil. Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille Orlin à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Bonjour, Orlin.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour, les voisins.
Orlin, vous avez 27 ans et vous avez eu un problème avec un bailleur qui vous logeait, j'ai pas bien compris.
Ouais, j'ai eu quelques problèmes, bon, c'est même pas une fois, mais plutôt deux fois.
Ouais.
Alors, j'étais logé dans une même parcelle que mon bailleur. Lui et sa famille n'étaient pas très contents du fait que l'on s'offrait les petits plaisirs de la vie, alors...
Ouais, vous voulez dire que vous faisiez un peu la fête, quoi, c'est ça? Vous faisiez un peu de bruit?
Oui, quelque chose comme ça.
D'accord, ouais.
Oui.
Et donc
non seulement le bruit, mais également quand vous payez un nouveau meuble, quand vous avez un petit véhicule que vous venez d'acheter, alors ça les mettait hors d'eux-mêmes.
D'accord. Et donc?
Alors là, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont dit, la meilleure façon de faire, ce serait de nous pourrir la vie.
Oui.
De telle façon que nous serions obligés de partir.
Oui.
Nous, la première chose qu'ils ont fait, c'était d'augmenter le loyer.
Mm-hmm.
Alors, la première fois, nous avons dû supporter, nous avons payé le nouveau prix. Mais dès le moment où nous avons payé un nouveau véhicule, c'était encore pire. Alors, mm-hmm. Cette fois-là, ça nous arrivait qu'on nous enferme à l'extérieur, soit qu'on nous coupe du courant.
Oui.
Alors, c'était vraiment compliqué.
D'accord, il a de l'imagination, votre bailleur. Et donc, finalement, alors?
Oui. Alors finalement, j'étais obligé d'aller le voir pour demander ce qui n'allait pas. Alors il m'a dit, je t'ai demandé d'accepter de payer le nouveau loyer.
Oui.
Et tu n'es pas d'accord, tu dégages carrément.
Oui.
Au lieu de passer par la procédure officielle qui consiste à vous donner 3 mois de garantie. Oui.
Et donc c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez. Alors je suis désolée, Orlin, je vais un peu plus vite que votre histoire, mais parce que vous êtes nombreux à vouloir dialoguer, poser des questions. Mais Orlin, vous avez fini par déménager, donc vous avez abdiqué d'une certaine manière. Vous n'avez pas trouvé un compromis, vous n'avez pas trouvé moyen de trouver un terrain d'entente avec le bailleur.
Non, il n'y a pas eu d'entente vu que on a supporté dans la mesure du possible, et quand on ne pouvait plus supporter, alors on a jugé bon de déménager.
D'accord. Donc vous n'avez pas triomphé de l'adversité. Qu'est-ce qu'aurait dû faire Orlin, finalement? Bon, il a mis un peu de bazar sur la parcelle de son locataire, de son propriétaire, hein,
moi,
apparemment.
Je pense que ce qui est central, c'est qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il aurait dû faire, parce que chaque situation est singulière. On peut juste essayer de montrer quelle est la logique du réel. Et la logique du réel, je crois que Mathilde Lévesque l'a dit... de manière tellement juste, on transforme l'adversaire en partenaire. C'est ça la situation. Mais des fois, il n'y a pas d'autre solution que de partir. Des fois, il n'y a pas de solution que d'entrer dans le conflit. Et je crois que le grand problème, c'est de croire qu'on va pouvoir donner une réponse à quelqu'un. Et je crois que c'est ça le côté, la vie, c'est que chaque situation est singulière. Par exemple, si moi, mon fils ne veut plus aller à l'école parce qu'il se fait harceler, la manière dont j'ai à lui répondre, ce n'est pas la même que vous. Parce que vous n'avez pas la même histoire. Votre fils n'est pas le même fils. Il ne va pas dans la même école. Et je crois que c'est cette intelligence de la situation qu'il faut développer. Et je crois que la leçon qu'on peut essayer de donner aux auditeurs, c'est comment développer une plus grande intelligence de la situation, sortir de nos préconceptions sur le réel, sortir, comme l'a dit Mathilde, du côté trop émotionnel, pour voir par où il y a une intelligence qu'on peut développer. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas à développer de l'intelligence du réel. On nous apprend à se plaindre. On nous apprend à nous plaindre. Ce qui est souvent la situation. Quelles sont vos emmerdes? Ah voilà, j'ai eu ça. Ça n'aide en rien. On invite au combat. Mmh. Et la grande question, c'est est-ce qu'on peut éviter l'agression en apprenant des moyens concrets, par exemple apprendre à parler et à se défendre, apprendre à mieux voir la situation, apprendre et c'est un vrai travail, c'est très simple, chaque fois, non pas qu'est-ce que moi je ressens, mais qu'est-ce qu'est la situation et quelle est la meilleure manière de faire dans cette situation. Et c'est tout simple, et ça change tout.
Mathilde,
oui, vous avez parlé, enfin l'auditeur a parlé de procédure officielle, première option, il y a la loi, il y a un cadre de loi, il y a une procédure officielle qui est un recours, on peut avoir envie de le faire, on peut avoir la flemme, on peut... Et surtout, pour moi, il n'a pas abdiqué, il a choisi de partir parce que la vie lui était rendue impossible. Et donc se lancer dans une procédure officielle et légale pour en fait avoir le propriétaire relou sur les bras toute la journée, autant partir, abdiquer parfois.
Et se préserver donc.
Voilà.
Merci à vous Orlin de nous avoir appelé. 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à Jean, un voisin qui a bien triomphé d'un petit enquiquinement à Abidjan. Bonjour Jean.
Bonjour Emmanuel, bonjour la voisine.
Vous avez 27 ans, vous êtes ingénieur civil et effectivement, il y a quelque temps, vous avez eu des soucis, on va dire mécaniques.
Oui, des soucis mécaniques. Lors d'un voyage, je ne pouvais pas dire d'une mission que j'effectuais à Dabou, quelques kilomètres d'Abidjan. Et là, de façon accidentelle, j'ai eu à crever mon pneu en allant sur le chemin de la mission. J'étais à quelques kilomètres d'un petit village. J'ai fait la marche pour venir dans le village trouver un organisateur qui a pu me dépanner. Il a mis mon secours, il a remis le pneu à neuf. Et là, je suis parti tout tranquillement. Voilà, je suis parti.
Donc, bon, jusque-là, tout va bien. Des villageois sympas qui vous changent qui vous aident, qui vous changent votre pneu. Et puis, boum, vous recrevez dans la même nuit.
Donc, au retour, il a fini la mission tardivement. Il revenait vers 20h. Là encore, tout seul, au bon milieu de la route. Il était loin de tout village. Et là, maintenant encore, le pneu est recrevé encore. Il m'a dit, ouf,
vous êtes dit.
Eh
ben ouais, vous n'êtes pas fait marabouter par hasard, Jean?
Non, je ne pense pas. Souvent, ça arrive dans la vie. Voilà. Donc, comme toute mission, quand on va en mission, il faut être prêt à accomplir la mission, quelles que soient les difficultés. Donc là, j'étais loin de tout, des villages. Il faisait nuit, je ne pouvais pas avoir quelqu'un pour me venir à mon secours. Et là, j'ai enlevé mon habit. Je me suis transformé en mécanicien. J'ai enlevé mon pneu. Moi-même, j'ai remué. Et là, j'ai commencé à rouler tout prudemment pour arriver à Abidjan. Tardivement, enfin que j'appelle mon chef de mission pour lui dire, j'ai fait la mission, il vient d'arriver, il y a eu des difficultés certes, mais j'ai été vraiment tenace, je suis arrivé, j'ai pu remettre le pneu moi-même, j'ai crevé à deux reprises, j'ai pu trouver la solution, donc là ça a été vraiment une victoire pour moi, je me sentais déjà soulagé, fier d'avoir pour moi accompli la mission comme il se devait.
Et une victoire pour vous, mais que vous avez raconté, que vous avez partagé aussi sur le travail, donc qui vous a valorisé d'une certaine manière Jean, non?
Oui. Je n'avais jamais fait auparavant, enlever un pneu moi-même, et puis changer, je n'avais jamais fait.
Oui, bah je vous rassure, moi non plus, je n'ai pas changé un pneu. Mais là, donc on apprend à tout moment
histoire.
De la vie.
C'est ça qui est extraordinaire.
Quand on n'a pas le choix, dans la nuit noire, dans les ténèbres, on sait changer un pneu.
Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, maintenant, Jean nous le raconte, et au fond, ce qui a été sur le moment vraiment chiant, ça devient un côté un peu héroïque. Moi, je me souviens... j'allais manger souvent chez ma grand-mère, que j'ai eu la chance, elle a vécu très longtemps, donc je pouvais y aller souvent. Et un jour, elle me fait toujours mon gâteau préféré. Et un jour, en débarrassant, je me rends compte que la porte de son four est cassée. Je dis, mais comment t'as fait pour faire cuire le gâteau? Elle m'a dit, c'était horrible. Ce matin, j'avais préparé toute la pâte la veille. Je vais pour le mettre dans le four et la porte me tombe des mains. Je dis, comment t'as fait? Elle m'a dit, je me suis fait toute belle et j'étais chez le boulanger, je demandais s'il voulait bien faire cuire mon gâteau et il a accepté. Mais jamais ma grand-mère, qui était quelqu'un de très timide, qui voulait pas déranger les gens, j'aurais dit avant, qu'est-ce que tu fais si un jour ton four se met en panne? Elle a dit, mais ça aurait été la catastrophe.
Ah, mais pour le petit-fils...
Et voilà, et souvent...
La leçon, c'est qu'il ne faut jamais abandonner.
Il ne faut jamais abandonner, il faut regarder autrement. Puis vous voyez, dans l'exemple de Jean, c'est qu'il avait envie de bien faire sa mission, il avait cette envie en lui. Qui l'a touché. Et ma grand-mère, c'était un peu par amour qu'elle a osé aller au-delà d'elle-même. Et souvent, par amour, par désir, on arrive à aller au-delà de ce qu'on croit qu'on peut faire. Mais ce qui est très intéressant aussi comme leçon de ce que nous dit Jean, c'est qu'avant d'être dans la difficulté, on ne sait pas qu'on a les capacités de le faire. Et notre problème souvent, c'est qu'on voudrait avoir réussi à vaincre les emmerdes avant d'être dans les emmerdes. Ça, c'est pas possible. C'est dans les emmerdes qu'on trouve les ressources qui vont nous permettre d'y faire face.
Quand je vous disais qu'on allait les désirer, hein, vous restez avec nous. Merci à Jean de nous avoir téléphoné. Je vous redonne l'appel 33 1 84 22 71 71. Comment triompher des emmerdes et vaincre l'adversité avec nos invités Fabrice Midal et Mathilde Lévesque. On se retrouve dans quelques instants.
De voisins, c'est sur RFI.
I had a rough day, but that's life, it happens. Woke up on the dark side of my mattress. I guess I forgot to set my clock. Overslept, almost lost the job. Been to top it off, I'm kind of hungry. Can't eat till I find my money. It's in my wallet, but my wallet ain't in my pocket. Can't remember the last time I saw it. And they don't want me in a bad mood. Afraid that it'll spread and everyone will catch an attitude. They got them all singing the same tune. Thinking I should go and start a fire in the break room. Co-workers make me sick. And the manager really ain't shit. But I can't quit, so I'm hiding in the basement. Holding on to my face like fuck this place. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Hell no, I ain't going to school. The teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids mess with each other always, all day. Class warfare up and down the hallways. And if you ain't popular, nobody talks to you unless they mocking you. Not even the bus driver or the hall monitor. I might as well climb inside my locker, huh? It's a bad day, bad week, and a bad month. Don't nobody wanna trade with my bag lunch. Someday I'ma be so cool, but for now I got cheap shoes, so I keep losing. Girls give no love to a poor man. It's a prison, the clock is warden, and it won't get no better when I get home. So I listen to the voice in my headphones. It say, every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play.
Mathilde Lévesque est en train de danser dans le studio, ça nous va, hein, c'est bon, vous avez le droit. Atmosphère de Best Day chez 7 milliards de voisins sur RFI, on était en direct. Une question d'un voisin congolais pour vaincre l'adversité et triompher des emmerdes.
Bonjour le voisin, le voisine. Mon nom c'est Lionel, je suis à Kinshasa. Récemment, je devais répondre à un entretien d'embauche. Finalement, je suis arrivé en retard et j'ai raté en tout cas l'occasion. Mais seulement tout d'un coup, quand ce moment échappait un peu à mon contrôle, la première manifestation c'était la colère. Je n'ai pas compris, je devenais furieux et je voulais m'apprendre au chauffeur quand il faisait manœuvre, quand il voulait encore chercher des clients en cours de route. Très nerveux aux gens qui étaient autour de moi. Et finalement, c'est la désolation qui arrive notamment. Et je me raconte que c'était la fin du monde. Alors comment se remettre après peut-être un moment pareil où vous avez l'impression d'avoir tout échoué, comme ça fut le cas avec moi. J'ai raté même les rendez-vous qui étaient assez importants. Comment me remettre et comment surtout surmonter ça en quelque sorte?
Ouais, comment surmonter? Vous imaginez les embouteillages à Kinshasa, plus d'entretien d'embauche, cette colère, ce sentiment d'impuissance.
Moi, quand j'ai commencé, quand j'étais un jeune travailleur, je me souviens, j'arrive 5 minutes en retard chez mon... Je travaillais avec un patron, et donc j'arrive 5 minutes en retard au rendez-vous qu'on avait, et il me dit, mais quelle honte, vous allez me faire attendre, alors qu'en général, j'attendais une demi-heure dans la salle d'attente, alors je trouvais que c'était un peu exagéré, donc j'étais aussi en colère, et après, complètement découragé. Mais j'en ai retenu que, tant pis, c'est comme ça, jamais je serai plus en retard. Et donc j'ai fait pour ne plus jamais être en retard avec cette personne-là. Donc peut-être pour Lionel, il faut qu'il voit de cette situation pourquoi il arrive en retard et qu'est-ce qu'il peut faire pour ne plus être en retard. On apprend de nos erreurs. Si au lieu de rester juste dans la colère et la désolation, on voit quelle est l'attitude qu'on peut avoir. Mais c'est sûr que c'est un renversement tellement radical. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps, c'est ça que j'ai écrit 30 livres avant de faire Traité de morale pour triompher des emmerdes, parce que notre attitude première, c'est d'être dans la plainte, de trouver que c'est pas juste. Moi, il y a quelques
donc,
jours...
Donc, reprendre la main, même si ça peut être quand même compliqué de reprendre la main sur quelque chose d'incontrôlable. Et...
Mais là, il peut prendre la décision de comprendre quelles sont les choses qu'il a faites qui fait qu'il est en retard pour ne plus jamais être en retard la fois d'avant, même s'il arrive trois quarts d'heure en avance.
Et par exemple. L'évêque.
Oui, enfin, moi, je trouve qu'il y a déjà une grande force dans le récit de Lionel, c'est que il est capable de dire qu'il était en colère. Et c'est déjà un premier pas. Les colériques refusent de dire qu'ils le sont. Et quand on leur dit « t'es en colère » ou « t'es en train de monter en pression », non, non, non. Et en fait, donc déjà, première chose, il est en colère. Deuxième chose, enfin, être capable de le reconnaître. Deuxième chose, sur qui ou sur quoi porte cette colère? Est-ce que c'est sur les embouteillages? Mais les embouteillages existent tous les jours. Ou est-ce que c'est contre vous-même, cette colère? Et si elle est contre vous-même, il faut la transformer, effectivement, en « je me débrouillerai désormais pour ne plus avoir à être... » fâché contre moi-même, puisque effectivement, quand on est dans une ville où il y a des embouteillages, ce qui est mon cas aussi, et qu'on ne doit pas être en retard, on s'arrange avec ça, et la colère, elle est quand même toujours, je crois, même quand on pense qu'elle est dirigée contre les autres, contre le monde entier, et contre le mauvais œil, et contre qui vous voulez, elle est quand même aussi toujours dirigée contre soi pour ne pas avoir été capable de faire autrement. Et c'est dans cet interstice-là qu'il faut se glisser pour essayer de faire mieux la prochaine fois.
Donc on laisse la colère au vestiaire, on laisse aussi l'abandon, le côté victime, le côté j'y arriverai jamais, on le laisse aussi au vestiaire pour faire...
Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation.
Reprendre la main pour agir.
C'est ça, reprendre la main. Moi, de la manière, je pourrais dire, ce que j'essaye de dire dans mon livre, c'est vous n'avez pas besoin d'être un super-héros pour réussir votre vie. Tous, il y a des moments où on échoue, tous, on a nos faiblesses, tous, il y a des trucs qu'on rate. Mais... on peut essayer de transformer les emmerdes. C'est ça la question.
Et de se rendre moins vulnérable.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Beaucoup d'auditeurs veulent s'exprimer. On a l'impression que c'est la journée des emmerdes aujourd'hui. C'est terrible.
Mais
on n'a jamais dit autant de gros mots d'habitude.
Il n'y a pas un être humain qui n'a pas des emmerdes. C'est notre lot quotidien.
Allez,
on fait semblant que ce n'est pas normal ou que ça n'existe pas. C'est ça qui nous rend impuissants.
Nous
il est temps
la
de nous
parole.
Apprendre qu'on soit puissants.
Akadi, qui nous appelle de Paris. Bonjour Akadi.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Kali, vous êtes en direct.
Du coup, j'ai eu le temps d'écouter encore une fois vos invités. Je les rejoins complètement, mais j'ai vraiment l'impression que nous-mêmes, on fait de nos journées une catastrophe. C'est-à-dire parfois de nos malheurs qui peuvent aussi nous aider, nous aider à nous améliorer.
Mmh. Voilà.
Et on a tendance à tout détester. Mmh. Et moi, j'ai fait un travail sur moi depuis des années, et je me suis dit que ce qu'on appelle les emmerdes font partie de nous.
Oui. Bravo.
Et que quotidiennement...
Il y en a qui les attirent plus quand même, je suis désolée, il y en a qui ont plus la poisse que d'autres.
Moi, je crois pas.
Mais oui, mais dans ce cas-là, s'ils en ont plus, il y a juste à faire un petit recul sur soi et réfléchir à comment améliorer cela. Donc, moi, je vois pas...
Alors quand même, Kadi, vous avez fait un travail sur vous, mais ce matin, pas de bol, quand même.
Oui, mais sauf que...
Que vous est-il arrivé, Kadi, ce matin?
Ce matin, je me suis écouté et ça a bien marché. Je sors, je prépare toutes les affaires depuis hier soir de ma fille, je mets les couches dans le sac, les changes et tout, parce que la nourrice avait signalé à ma grande fille qu'il fallait que j'apporte des couches et des changes. D'accord, je fais tout ça le soir, je me dis le matin, j'ai juste à prendre le sac et partir. Sauf que le matin, je prends juste mon sac à main et je laisse l'échange. Donc, arrivé devant la porte, je me rends compte que c'est pas le bon sac que j'ai. Alors, je fais quoi? J'ai dit, allez, continue, Kadi, c'est pas grave, allez, continue. J'arrive devant la nourrice, je dis, oh là là, madame, vous saviez ce matin, franchement, j'ai tout oublié et tout. Mais dis, mais madame, mais c'est pas grave, vous viendrez avec demain matin. Alors... si toutefois j'avais paniqué, je suis retournée chez moi, la poisse, le matin, ça commence et tout.
C'est
mais
ça.
Allez, moi, j'avais déjà gâché ma journée.
Et ben voilà, en tout cas, vous avez le talent de vous entourer de personnes bienveillantes, y compris pour garder vos enfants. Kadi, merci beaucoup de nous avoir appelé. Simane nous appelle de Lyon. Bonjour Simane.
Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Et je suis vraiment une fidèle auditrice de votre émission.
Et ben merci à vous, en tout cas, de vous manifester. Alors, vous avez un prénom qui veut tout dire, je crois.
Exactement. Je remercie mes parents et ma grand-mère de m'avoir donné ce prénom parce qu'il signifie équilibre, justice dans ma langue natale.
Oui.
C'est le somali.
Mmh.
Et donc, j'ai l'impression, Oscar Wilde disait, le nom est tout. Et j'ai l'impression que je l'ai toujours vécu, en fait. parce que ça, ça m'a toujours poursuivi en fait dans ma vie, ça m'a toujours accompagné.
Oui, c'est plutôt accompagné que poursuivi d'une certaine manière. Voilà. Donc finalement, vous êtes bénie dès la naissance avec un prénom qui vous porte bonheur.
Moi, je le considère en tout cas.
Oui,
mais tout est là.
Allez-y, Mathilde.
Tout est là. C'est si vous considérez qu'il vous porte bonheur, déjà une partie du travail est fait. Hein.
Exactement. L'autoconviction. Je suis très d'accord aussi avec ce que Kadi a dit. C'est que on a beaucoup de choses en nous. Et moi, l'une des choses qui me beaucoup, c'est d'écouter mon intuition et de me ressourcer, d'observer mon monde intérieur. Enfin, ça peut paraître banal, mais je vous assure que ça m'aide beaucoup. Je suis étudiante et maman en même temps. Mmh. C'est pas un boulot facile, mais je l'ai choisi. Je l'ai choisi. C'est un choix de vie que j'ai fait parce que, au bout d'un moment, j'ai réfléchi. Je savais que mes études allaient me prendre longtemps et je sais que j'ai l'envie aussi de fonder une famille, mais je suis une femme, je suis réglée par l'horloge biologique.
Et vous avancez à votre vie finalement, à votre rythme, j'allais plutôt dire, quel lapsus. Merci Simone de nous avoir téléphoné. Une question d'un auditeur, Alain, qui est en Haïti. Il nous demande quel lien existe-t-il entre la gestion de l'adversité et l'enfance.
Alors, en fait, je me permets de répondre et de rebondir sur ce qu'a dit Kadi tout à l'heure et ce que vient de dire Simone aussi, c'est-à-dire que là, on touche à la question de la psychanalyse, évidemment, du travail sur soi. Et je me dis que l'introspection, ce que disait Simone, revenir en soi, et ça, on en parlait tout à l'heure avec Fabrice aussi, c'est bien, mais à un moment, il faut sortir de soi aussi. Et c'est ce que permet le travail sur soi, avec un regard extérieur, de faire sortir ce qu'on a en soi, de faire sortir d'éventuelles choses refoulées, des traumatismes de l'enfance, qui bien sûr font que parfois on fait payer aux autres des choses pour lesquelles ils n'ont rien fait, parce que c'est notre histoire. Et là, je crois que l'introspection ne permet pas de lever ça. Il faut le travail sur soi pour le faire sortir et faire en sorte du coup qu'on n'ait plus comme ça des pulsions d'agressivité à l'égard de gens qui ne nous ont rien demandé.
Fabrice Midal, pour vous, est-ce que l'introspection empêche l'action, anéantit l'action? Disons, parce que vous dites toujours, il faut changer sa façon de faire, de voir.
Disons, il y a un problème. L'introduction, ça peut être bien à un moment, mais il y a un danger, c'est de toujours essayer de voir ce qu'on sent, et du coup, on sait plus se défendre. Et moi je raconte dans le lit cette anecdote de mon amie Marine, qui se faisait harceler par son mari, et chaque fois, j'allais lui dire, mais ça ne va pas, la situation, elle me disait, oui, mais quand même, j'ai cette blessure, moi aussi, j'ai quand même des peurs. Mais à un moment, je lui dis, on laisse tomber cette introspection sur ce que tu sens, regardons objectivement la situation, mettons de côté un peu ce que tu ressens émotionnellement et regardons objectivement, est-ce que la manière dont il te parle et il te traite est légitime ou pas ? Non, c'est pas légitime, donc il faut que tu te défendes. Et donc c'est ce principe, ça, j'en suis venu à penser qu'il y a une thérapie par la morale, il y a une thérapie par l'action.
La rhétorique dans le couple, ça marche pas tellement en général.
Si, la rhétorique...
Soit on part, soit on reste.
Non, mais la rhétorique, comme le présente Mathilde Lévesque, c'est pas... Du bavardage, c'est apprendre à parler. Quand on apprend à parler, on crée une meilleure relation. Parce qu'on est toujours dans la naïveté que si on s'aime dans un couple, ça devrait être tout de suite bien. Ouais. Non, on apprend à parler, on apprend à écouter l'autre. Et ça, c'est absolument central. On ne nous apprend pas à regarder le réel. On ne nous apprend pas à avoir de la force par rapport au réel.
Alors, Nicolas Benita, qui réalise l'émission et qui veut absolument participer, nous dit « Mais non, la rhétorique, c'est avoir raison. » Vrai ou faux, Mathilde Lévesque ?
Non, enfin faux. C'est parce que avoir raison, c'est pas clair non plus. Hein. La rhétorique, c'est, je pense que c'est peut-être là-dessus, on serait d'accord. C'est avoir le dessus plutôt que raison.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des gens.
Même si c'est pas légitime, même.
Eh ben oui, bien sûr.
Non, mais apprendre à dire ce qu'on a à dire de manière juste, en faisant vraiment attention au réel, c'est pas. C'est important. Je crois que la question qu'il y a derrière la question que pose Nicolas, c'est est-ce que l'habileté est toujours une manipulation ? Non. Et comme aujourd'hui, on confond la ruse, l'habileté, l'agilité avec la manipulation, on nous apprend l'impuissance. Et du coup, on est juste dans le conflit. Mais bien sûr que c'est important. Quand mes enfants ne veulent pas manger de légumes et que je leur fais une omelette en mettant des légumes sans qu'ils le sachent et qu'ils mangent des légumes, oui, d'une certaine manière, je ne dis pas la pure vérité. Mais je fais ça pour leur bien. Il y a complètement une manière de manipuler les autres parce que je leur fais du mal. Et il y a une manière de réussir à dire ce qu'on a à dire et à pouvoir se défendre. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens sont dans une situation où ils se sentent impuissants et ils se plaignent parce qu'on ne leur apprend pas pas à se défendre. Et je trouve, moi, ce qui est intéressant, c'est comment on fait pour aider les gens à avoir qu'ils ont plus de ressources qui vont leur permettre de vaincre dans les emmerdes.
Justement, je vais y arriver, Mathilde Lévesque, je voudrais que vous nous donniez là, les quelques règles d'or pour se faire respecter en toutes circonstances, hein, qui sont très bien expliquées dans le livre.
Alors, en toutes circonstances, déjà, ça pose problème, parce que justement, chaque contexte est particulier, et qu'une même personne, votre interlocuteur, n'est pas le même le matin, le soir, le jour même et le lendemain. Il y a plein de facteurs. Donc déjà, première règle d'or, faire attention à la situation d'énonciation. Mmh. Dans quel contexte on est, dans quelle humeur est l'autre, dans quelle humeur on est soi-même.
Ouais, s'adapter à son interlocuteur.
Donc. Voilà. Alors, c'est s'adapter au contexte. Se connaître soi-même, connaître ses failles, connaître ses fragilités et mettre toute son énergie là-dedans, plutôt que d'essayer d'être sur tous les fronts. Choisir ses combats, ne pas être dans l'agressivité et l'autodéfense permanente non plus, préserver ce qu'il y a de précieux en nous et les valeurs auxquelles on tient, préserver ses valeurs et pas une intégrité un peu à tout va. S'adapter effectivement à l'autre, ça je pense que c'est très important. On dit « l'habit ne fait pas le moine », bah si. En cas de conflit, l'habit fait le moine. Oui. Et l'image que la personne en face de vous veut renvoyer d'elle est fondamentale. Si vous cherchez à casser ça, un policier qui fait le cow-boy, un patron qui fait le patron, n'importe qui crée un ethos particulier, on doit composer avec, parce que commencer à l'aborder en lui ruinant sa carapace, en quelque sorte, c'est l'assurance de l'échec.
Alors on fait comment? On le complète dans ce qu'il veut être?
On fait avec. On fait avec. Bonjour monsieur, d'accord, oui. Ça ne veut pas dire courber les chines, attention. C'est installer un climat propice au dialogue. Et ne pas tout de suite être dans l'attaque. Ok, d'accord, t'es un cow-boy, ok. Voilà. Et ensuite, oui, mais bon... Et ensuite, on en vient à ses propres arguments. Mais c'est sûr, un policier qui fait le cow-boy, si vous l'attaquez, c'est mort pour vous.
Toujours rester dans l'argument, vous le dites bien, vous l'expliquez bien dans votre livre, et non pas dans la description de ce qu'est l'autre. Ne pas lui dire « tu es désagréable », ça ne fait pas avancer les choses.
Non, et ça excite, en fait. Là, tu es méchant, là, tu mens, là, tu es agressif, là, tu es désagréable. Non, il faut rester vraiment au niveau 1. Du dialogue, c'est-à-dire rebondir sur ce que l'autre a dit et toujours identifier la partie de sa phrase sur laquelle on veut rebondir, c'est la partie de la phrase qu'on veut contester. Par exemple, je ne sais pas, le conjoint qui vous dit tu m'as trahi, rebondir sur l'idée de la trahison au lieu de lui dire non, tu mens, tu es agressif, vraiment identifier ce sur quoi on peut rebondir pour que l'autre aussi comprenne là où il s'est trompé. Il doit le comprendre seul, ça sera toujours plus efficace que si on le lui dit.
Il y a les mots, mais il n'y a pas que les mots, il y a le langage du corps. On peut utiliser son corps pour ne pas subir l'adversité. Vous vous conseillez par exemple, Mathilde Lévesque, de ne pas rester sur sa chaise quand une personne s'adresse à vous debout.
Ouais. L'axe vertical est fondamental, c'est celui de la hiérarchie. Votre patron est debout, vous êtes debout.
Le langage du corps, vous êtes d'accord avec ça, Fabrice Midal?
Oui. Oui, c'est important de... C'est important de voir tout ce qu'on peut employer pour réussir à dire ce qu'on a à dire dans la situation. Et ça nous demande d'apprendre une certaine forme de grammaire. Et on a l'impression que si on apprend cette grammaire, on va être inauthentique, pour reprendre ce que j'essaye de montrer. Or, au fond, c'est ça la morale. La morale, c'est quelle est l'habileté que je peux développer pour réussir à me débrouiller dans la vie. Donc, me mettre debout. C'est plein de choses qu'on pense inimportantes, se révèle extrêmement importante. Et souvent, on voit des conflits très graves venir juste de ce manque de ce qu'on appelait autrefois la diplomatie. On est tout à fait d'accord que c'est important, l'art de la diplomatie. Mais dans notre vie, on a l'impression que c'est une forme d'hypocrisie. Ouais, on a beaucoup de croyances qui passent partout. L'hypocrisie, c'est pas bien, il faut toujours dire la vérité. Oui, mais il faut dire la vérité. Comme je dis, chaque chapitre vient avec un retournement. Et je dis, soyez sympa, dites la vérité. Mais au bon moment, parce qu'il y a des moments où les gens vous disent au nom de la vérité, ils vous écrasent, ils vous font du mal. Mais à quel moment on le dit? Donc ça, je crois que c'est très important. C'est pour ça que j'ai mis sur la couverture de mon livre Un renard. Je crois que c'est important parfois de prendre l'appui sur le renard. Le renard, il est rusé et il y a une ruse qui est légitime.
Et bon, on terminera sur cette métaphore. Merci à vous Fabrice Midal. Donc vous publiez Traité de morale pour triompher des emmerdes. Et merci à vous Mathilde Lévesque, La tête haute, guide d'autodéfense intellectuelle chez Payot. Demain, 7 milliards de voisins, foot, basket, etc. Le sport peut-il permettre de trouver sa place en société? À demain!